Philosophie et religion ont souvent coexisté au cours de l'histoire. Pourtant, à chaque période historique, ses préférences. Quand on pense antiquité gréco-romaine, c'est plutôt la philosophie qui nous vient à l'esprit. Le Moyen-Âge est quant à lui plutôt associé à une domination largement plus théologique. La Renaissance propose ensuite un retour à la philosophie avec l'émergence de l'humanisme, où l'on choisit de se concentrer davantage sur l'être humain et ses pensées plutôt que sur la vénération des divinités. Bien que toutes les philosophies et religions aient des fondements et des fonctionnements différents, on retrouve des caractéristiques communes à la religion d'une part et à la philosophie d'autre part. Comment peut-on différencier, dans leurs définitions les plus précises, philosophie et religion ? À l'aide des connaissances que j'ai amassées au cours de mes recherches, j'ai tenté d'en déduire et de fournir ici même plusieurs éléments de réponse. La frontière est ténue et souvent bien difficile à identifier. C'est pourquoi je ne prétends pas donner une explication qui saurait pleinement différencier les deux. Vous écoutez sur Radio Primitive le podcast Chemin croisé, philosophie et religion. Focalisons-nous dans un premier temps sur son histoire en Europe. J'aimerais tout d'abord avancer la différence dans les composantes de ces modes de pensée et dans leur finalité, leur objectif, qu'ils proposent respectivement. Le mot philosophie vient du grec philéo, qui signifie aimer, et de sophia, qui signifie la sagesse, mais aussi le savoir. Si l'on élargit le sens du mot via son étymologie, on peut considérer que la philosophie constitue principalement la recherche du savoir. Cette discipline est du domaine de la science. Ce qu'on appelle la science englobe toutes les disciplines qui nécessitent un cheminement et une démarche intellectuelle spécifique. Cela inclut les sciences dures, comme les mathématiques, mais aussi les sciences molles, par exemple la sociologie, la philosophie donc. Ce savoir est considéré comme nécessaire au développement raisonnable de l'être humain et à son épanouissement. Ainsi, la philosophie se donne pour objectif d'apporter un but à l'existence humaine, afin de la rendre meilleure. Que ce soit le stoïcisme, l'épicurisme, même le cynisme, ces philosophies renvoient systématiquement à un questionnement de la vie elle-même, pour la vie elle-même. Un questionnement si large renferme de fait de multiples interrogations précises, dont les réponses ne sont que de nouvelles questions. Selon les philosophes contemporains Jacques Billard, Jean Lefranc et Jean-Jacques Wunnenberger, la philosophie, présentant un argumentaire structuré, est à la base de toute forme de réflexion. Sans philosophie, pas de rationalité critique, pas d'empirisme, et donc pas d'aboutissement aux sciences dures telles qu'on les entend. En fait, on peut dire que la philosophie est l'atout indispensable pour comprendre la vie. La religion, dans beaucoup de cas, n'apparaît pas comme un tissu de questionnement dans le but de comprendre et de déterminer le cheminement de l'existence humaine. Quant à son étymologie, elle est floue. Philippe Granarolo, professeur agrégé en philosophie, propose dans son article « Religion, notion de base », trouvable sur l'encyclopédie Universalis, deux hypothèses étymologiques. D'une part, du latin « religere », qui se traduit par « relire attentivement ». Cette explication justifie l'assiduité du fidèle à sa religion. D'autre part, du latin « religare », qui signifie « relier ». Auquel cas, cela pourrait souligner un lien entre l'être humain et le ou les dieux auxquels il croit, entre l'être humain et les autres fidèles, ou l'être humain avec la nature. Peu importe quelle étymologie est la plus probable, la religion met l'accent sur le lien que l'être humain entretient avec une autre entité, un lien sacré, et non la compréhension de la vie telle qu'elle, de l'homme et des éléments qui l'entourent en eux-mêmes. Aussi, la finalité, l'objectif voulu par la religion pour ses fidèles, n'est pas à terme la vie elle-même, mais une forme d'au-delà ou de vie après la mort. La philosophie cherche une compréhension et une optimisation, à travers les savoirs et les connaissances, de l'être humain et de la vie. Chaque philosophie, à partir de ce qui compose ce monde, tente de répondre à ces problématiques. Quant aux religions, elles sont à la recherche constante d'une entité supérieure qui régirait l'humanité. Une vision religieuse nouvelle du monde se développe dès le XIIe siècle, en tout cas en France, dans le sud-ouest du pays. Ce sont, selon les catholiques, des hérétiques, qu'ils qualifient dès l'année 1163 de cathares. Les cathares, quelle que soit l'obédience à laquelle ils se rattachent, croient en l'existence de deux mondes. L'invisible, matériel, du mal, empli de créatures corruptibles. L'autre, invisible, spirituel, lumineux, du bien, empli de créatures incorruptibles. Les cathares se considèrent comme les âmes déchues tombées dans le monde matériel, qui est le véritable enfer selon eux, fabriqué par le dieu dit mauvais. La conception du monde lui-même, d'un point de vue spirituel, est donc différente de ce que prône l'Église catholique. Enfermées dans le corps matériel, ces âmes se réincarnent jusqu'à ce que leur corps hôte accepte de les purifier. Les cathares se divisent alors en deux catégories. Les simples croyants, dont l'âme est encore piégée, les bons hommes et les bonnes femmes, qui sont parvenus à être purifiés et à se détacher du matériel. Ce salut fut possible après le consolamentum, un rituel cérémonial qui fait passer du statut de simple croyant, venant de se libérer, à celui de bon homme et de bonne femme. Il s'effectue en plaçant ses mains sur la tête du simple croyant. Un autre facteur me paraît expliquer pourquoi il est si difficile de séparer clairement philosophie et religion. La philosophie et la religion au Moyen-Âge s'affrontent sur un terrain bien particulier, la théologie. Il s'agit de l'étude de la religion, principalement le christianisme en Occident, auquel philosophes et religieux s'intéressent pleinement. Cette discipline croise la philosophie avec la religion, qui est son objet d'étude. Le philosophe Érasme s'en donne à cœur joie dans son ouvrage « L'éloge de la folie » qu'il publie en 1511. Il critique ouvertement les débats théologiens de ses contemporains, surtout ceux issus du courant illuministe, qui remettent en question des aspects très précis du catholicisme. Érasme veut d'une théologie bien plus pragmatique et logique. Il critique l'état de l'Église catholique, appelle à une forme de raisonnement logique et organisé qui répond à une démarche bel et bien philosophique. Maintenant que j'ai proposé une distinction théorique, il serait intéressant de se pencher sur tout autre chose. Pour quelles raisons dans l'histoire, les philosophies et les religions ont-elles eu, alternativement, plus ou moins de succès ? À quels besoins des populations ces deux concepts pouvaient-ils répondre ? La plupart des philosophes n'étaient pas athées. Cela signifie qu'ils ne niaient pas tous l'existence d'un ou de plusieurs dieux potentiels. L'athéisme était un mode réflexif à part, et ses adeptes constituaient un groupement unique de la philosophie. On pouvait être philosophe et croire en une religion. Érasme lui-même était catholique. Pourquoi ? Simplement parce que les réponses apportées par la philosophie, d'un côté, et la religion, de l'autre, sont d'une nature différente. Dans l'Antiquité, on trouve une coexistence philosophique et religieuse, un équilibre relativement stable, voire une complémentarité. La concurrence et l'opposition sont présentes, mais pas exclusives. On trouve des philosophies tout à fait indépendantes, par exemple le Carpe Diem de Horace, des courants tels que le stoïcisme, le cynisme, l'épicurisme, l'aristotélisme, mais l'influence des religions polythéistes n'est pas à sous-estimer et contribue aussi à transmettre des idées philosophiques. Comme l'explique le philosophe grec Platon du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'intérêt philosophique du mythe est d'évincer ce qui relève de l'intangible, du surnaturel, pour ne garder que les éléments logiques et rationnels, à savoir le caractère moral, le principe fondamental à toute forme de réflexion, qui est attiré du mythe. Le mythe de Sisyphe, par exemple, communique l'idée que la vie est absurde, mais qu'on peut lui trouver un sens si l'on apprend à apprivoiser sa propre conscience. En fait, la religion accompagnait la réflexion philosophique. Les anciens estimaient, que ce soit en Mésopotamie, puis plus tard en Grèce, en Égypte ou dans l'Empire romain, qu'un dieu unique était dans l'incapacité de répondre à tous les besoins de l'être humain et des autres entités naturelles avec lesquelles il coexiste. Les divinités, étant anthropomorphes, se trouvaient de fait proches de l'espèce humaine. Cette proximité permettait une vision en miroir, un échange, un écho entre l'être humain et le sacré. Un terrain d'entente était donc trouvable entre philosophie et religion pour répondre aux besoins des croyants. Historiquement, on constate que la religion en Occident et au Moyen-Orient se désolidarise plus franchement de la philosophie avec l'apparition du monothéisme. On observe que la religion fut un moyen, à partir du Moyen-Âge, d'expliquer ce que la science n'avait pas encore découvert. Le côté mystique derrière chaque explication scientifique, rationnelle, factuelle, que l'on peut se targuer d'avoir découvert aujourd'hui, formait des doutes très présents chez les populations médiévales. Comme dit plus haut, la philosophie a sans doute permis l'élaboration des sciences dures. La religion s'est alors développée comme une alternative à la philosophie et comme un rempart à ce que la science ne parvenait pas à expliquer. Le but fut de pallier les inquiétudes des fidèles qui ont découlé de ces lacunes. Mais alors, comment ces inquiétudes ont-elles surgi ? Elles sont nées avec l'augmentation drastique de la population. Selon l'INED, l'Institut national d'études démographiques, la population mondiale à la fin de l'Antiquité s'élevait à 200 millions, à 430 millions environ au début du XIVe siècle. Cela signifiait plus d'enfants à nourrir, malgré des productions céréalières et agricoles devenant insuffisantes. Des disettes, des famines, à quoi s'ajoutaient les vagues successives de peste noire, dont la plus violente a décimé un tiers de la population mondiale de 1347 à 1353, la guerre de Cent Ans, qui en a duré 116, de 1337 à 1453, a semé une terreur importante en Occident. L'espoir d'une vie après la mort devint le seul refuge de pensée pour beaucoup d'individus, peu importe la classe sociale ou le métier. Les artistes exprimaient un effroi particulier. Les besoins des populations surpassèrent ce que l'être humain était capable d'apporter. Et contrairement à l'Antiquité, on ne cherchait plus un miroir avec l'anthropomorphisme des divinités, mais une entité supérieure dominant le destin de l'humanité. Autrement dit, une figure du héros, conférant une sécurité rassurante pour ces populations, d'où la place accordée au monothéisme en Europe. Fortement appuyé et renforcé par l'endoctrinement de l'Église catholique, qui se présenta comme ce seul sauveur suprême, une angoisse de la souffrance et de la mort animait sans doute les croyants. Si l'on se fie à la philosophie contemporaine, on remarque bien vite qu'elle se rapproche des visions antiques. Citons par exemple le philosophe contemporain allemand Friedrich Nietzsche. On l'associe souvent à l'initiateur de l'éternel retour, cette théorie selon laquelle la vie est un cycle qui se répète à l'infini, à la chose près, qui ne peut être modifié. Déjà, ce concept est antique. Il appartient, tel qu'on le définit dans sa dimension abstraite, au courant antique héraclitéen. En plus, l'objectif de cette théorie, reprise par Nietzsche, n'est pas mythique. Ce qui compte n'est pas la répétition en soi, à la manière de la réincarnation en religion, mais le caractère moral que l'on peut en tirer. Vis ta vie de sorte à ce que tu souhaites qu'elle se répète éternellement.
Ce qui caractérise la philosophie au sens très général du terme du 19e siècle, c'est le caractère de science qu'elle cherche à acquérir. Elle veut être une science de la société avec la sociologie, elle veut être une science de l'esprit avec la psychologie, elle veut être une science de l'histoire.
Nous nous sommes concentrés depuis le début de mon propos sur une Europe très fracturée. J'aimerais maintenant me concentrer sur l'Orient, et particulièrement la Chine. Philosophie et religion peuvent-elles être réunies et condensées pour donner un mode de pensée unique ? Peut-être y a-t-il une différence entre les religions majoritaires en Occident et celles en Orient, et leur rapport à la philosophie ? En reprenant les arguments précédents, on constate que les religions monothéistes au Moyen-Âge, en Occident, se présentaient comme une consolation, une échappée, pour un grand nombre de croyants. Ainsi, ces religions regroupent des affects qui n'octroient presque aucune place à la raison. Cela résulte en une incompatibilité totale avec la philosophie occidentale, qui a elle-même évolué de son côté, en tendant toujours plus vers une préférence très marquée pour la logique et la raison. Cependant, peut-être que cette incompatibilité ne va pas de soi avec l'histoire de l'Orient et de la Chine. Par exemple, les religions et les philosophies en Chine, que l'on connaît encore aujourd'hui, se sont développées tout particulièrement entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, à une époque de division, appelée l'époque des royaumes combattants. Si l'on prend l'exemple du taoïsme, qui est un courant ancestral et fondateur de la civilisation chinoise, il est difficile de le classer unanimement comme mode de pensée religieux ou philosophique. Il s'agit d'un mode de pensée tirant ses origines de la Chine antique, certainement très antérieur à la dynastie des Han du 3e siècle avant Jésus-Christ, même s'il n'est labellisé taoïsme qu'au 1er siècle de notre ère, avec la naissance de ses écoles d'enseignement. Le taoïsme, dans la manière dont cette pensée a été théorisée, tire son origine d'un enseignement, d'une méthode particulière de pensée appelée le Dao. Elle fut mise au point par un savant chinois ancestral dont l'existence est plus qu'incertaine, Lao Tzu. Selon cette vision taoïste, le Dao, qui incarne une partie de la nature, s'oppose à l'humain, à la culture, à l'intelligence. C'est un concept primordial qui cherche à se débarrasser de la recherche de la connaissance et de l'intellect tels qu'ils sont définis. Le Dao passe d'une âme à une âme sans se servir des moyens de communication du langage oral et intellectualisant. Ainsi, le Dao se base sur une croyance religieuse, mais son objet vise à améliorer la vie de l'individu qui y croit. Les confucianistes, dont la philosophie se base sur l'intellect et la recherche du savoir, méprisaient la vision taoïste qu'ils considéraient comme hédoniste et non digne de se qualifier comme un véritable mode de pensée. La complexité de la définition du Dao, l'ancienneté de ce courant et ses nombreuses évolutions, la découverte du taoïsme très tardive en Europe au profit du confucianisme complique certainement de trancher. Mais peut-on considérer aussi que la philosophie est plus large que la recherche stricte de la vérité et de la raison ? Que la religion ne se donne pas comme seul objectif une post-existence ? Un dernier point. Est-ce si évident et pertinent, d'un point de vue culturel, de séparer ainsi philosophie et religion ? Philosophie et religion peuvent aussi converger pour donner naissance, évoluer vers une culture et des traditions communes. Par exemple, il est difficile de déterminer réellement les statistiques concernant le nombre de croyants en Chine. Et pour cause, on constate que beaucoup de Chinois, qui se disent non-croyants ou athées, sont en fait attachés à des traditions qui relèvent du taoïsme, du confucianisme, de l'animisme ou du bouddhisme, sans reconnaître ces pratiques comme religieuses, ou moins concrètement philosophique, mais comme culturel. Où se trouve la frontière ? Nul doute que ce sont deux modes de pensée soudés entre eux, et qu'ils sont indissociables une fois que certaines réponses ont été données. Je dirais en conclusion, en philosophant un peu, que séparer ces deux modes de pensée dans une autre mesure ne s'avérerait pas forcément si judicieux. L'un a influencé l'autre, et réciproquement. Il semblerait que ce soit le propre de l'être humain de toujours vouloir classer, ranger, mettre dans des cases chaque idée nouvelle qu'il est amené à découvrir. Mais les notions les plus abstraites, dont la nuance est la clé, n'y rentrent pas toujours. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici.